et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pulsion commencée à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. J'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes bonsoir. En direct sur FP, donc pour l'émission L'Envolée jusqu'à 20h30. On va commencer par faire le tour des personnes qui sont là. Donc il y a K.
Yes, salut.
Il y a Louise.
Salut.
Il y a Elsa.
Salut.
Il y a Serge.
Salut tout le monde.
Il y a moi, Joël, et il y a une autre personne, mais je ne sais pas si on peut dire son prénom.
Bah, je vais te péter.
Il y a Marion qui est là aussi.
Et il y a encore une autre personne, mais ouais. Là on peut dire son prénom. Allô Sylvia.
Salut.
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 Ça va?
J'espère que vous allez tous et tous et toutes bien. Ouais, ça va super.
Ouais, nous ça va bien, super. Mais par contre on n'entend pas super bien dans les casques.
Ouais. Ouais, et puis tu nous manques quoi.
Ça y est, ils font déjà des réclamations, on n'entend pas super bien dans les casques.
Oh. Et ouais, devine qui est-ce qui est encore en train de gérer. Toujours moi. On va faire un petit fil de l'émission.
Ouais. Avant ça, je vais quand même rappeler tout de suite les contacts. Donc le téléphone portable pour nous appeler à tout moment de l'année, de la semaine, de la journée, de la nuit. Le portable, c'est le 07 52 40 22 48.
Deux fois.
Je répète une deuxième fois.
Ouais, c'est sûr.
Le 07 52 40 22 48. Pour nous appeler en direct pendant l'émission, c'est le 01 40 05 06 10. Le 01 40 05 06 10. Vous pouvez nous écrire, évidemment, à l'envolée. L'abonnement est gratuit au journal et pour les personnes qui sont à l'intérieur. Et donc, pour nous écrire, c'est l'envolée chez FPP, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris.
Et on avait dit qu'en début d'émission, on présentait quand même, parce que c'était l'envolée.
Ouais, j'allais le faire en fait. J'allais le faire en loose day, en mode non, mais quand même.
Les stagiaires, vas-y.
Attends, on est qui ? Pourquoi on commence une émission là tout de suite, tu vois ? Donc, quand même, pour rappel, nous, on fait partie de l'équipe de l'envolée. L'envolée, c'est donc cette émission de radio, c'est aussi un journal. Ça existe depuis longtemps, depuis 2001, quelque chose comme ça. Et donc, l'envolée, c'est un journal pour en finir avec toutes les prisons et pour faire passer la parole, en fait, on va dire, de l'intérieur à l'extérieur, mais aussi de l'intérieur à l'intérieur et entre nous, proches aussi de personnes qui peuvent être enfermées ou qui sommes contre la prison, à des personnes qui peuvent être à l'intérieur ou qui sont concernées par ces questions-là. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Ça vous va ?
C'est très bien.
Et du coup, on est aussi sur les réseaux, donc on est sur Instagram, vous cherchez l'envolée journal, vous trouvez. L'envolée, c'est L'ENVOLEE. Et sinon, on est aussi sur Twitter, sur Facebook, on a un site qui s'appelle l'envolée.net, donc LENVOLEE.net. Et puis, on a les numéros de téléphone que Joël a déjà dit.
Ouais. Et on va faire je vais présenter le fil de l'émission d'aujourd'hui. On va commencer avec quelques brèves et nouvelles de ces derniers temps, cette semaine notamment. Donc la question de la canicule et des conditions de détention complètement indignes, notamment à Bordeaux-Gradignan, mais en fait un peu dans toutes les tôles de France. On va parler de Caen. Il y a eu un incendie à Caen. Je crois qu'il y a Sylvia qui avait un coup de gueule à passer aussi. On va parler des Basques, rapido, et puis ensuite, après une petite pause, on parlera du comité justice pour Mohamed Benmouna, qui est mort en garde à vue à Saint-Étienne en 2009, si je ne me trompe pas.
Ouais, à Firmini, à côté de Saint-Étienne.
À Firmini, pardon. Et on finira avec un appel du comité pour Vincenzo Vecchi, et puis on finira par les cocos, si je ne me trompe pas. On est bon.
On va dire qu'on fait ça.
Ok. C'est bon là. Bordeaux, qui parle de Bordeaux ?
C'est donc moi qui ai été missionnée pour ça. Donc, il y a la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui a sorti un rapport sur le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. D'ailleurs, j'ai un doute, c'est une maison d'arrêt, non ?
Ou c'est non, c'est un, les CP. Deux
c'est un CP.
C'est un CP. C'est un CP, ok. Ouais. Donc, c'est des centres de détention et maisons d'arrêt. Donc la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, elle va dans les prisons, elle raconte, elle visite, elle regarde tout et après elle raconte, elle fait des rapports. Et puis en général, il ne se passe pas grand-chose derrière. Mais au moins, ça permet que ça soit public et qu'on puisse avoir un peu des infos précises sur ce qui se passe dans les prisons. Donc je crois que c'est tout publié sur Internet à chaque fois. Ouais. Et là, c'est quand même sur Bordeaux-Gradignan, c'est quand même vraiment chaud. C'est le cas de le dire. Donc, ils y sont allés en mai-juin 2022, là. Et en fait, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y avait un taux global d'occupation de 200%. Donc, les personnes, elles sont à trois en cellule avec des matelas au sol. Puis, avec tout ce que ça entraîne, en fait. Ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que ça montre bien tout ce que ça entraîne. C'est-à-dire que les cellules, elles sont triplées avec un matelas au sol. Donc déjà, conditions vraiment super merdiques. Dans des cellules de moins de 9 mètres carrés en général, avec des toilettes, avec pas de séparation dans les cellules ou des séparations vraiment super nulles. Et ils sont enfermés en cellules 22 heures sur 24 parce qu'il n'y a presque pas d'activité. Sylvia, si tu veux intervenir, t'hésites pas. Hein.
Ouais, tu sais pourquoi je veux intervenir parce que c'est super important ce que tu viens de dire. C'est que y a, quand ils sont à trois en cellule et que c'est des lits superposés dans 9 mètres carrés, tu as un lit superposé, donc deux lits normaux, et un haut, un en bas. Et après, le troisième, il dort sous un matelas que tu mets sous ton lit. D'accord ? Et en fait, quand tu es enfermé dans cette cellule de 9 mètres carrés, ton lit, ton peu d'espace que tu as, c'est le tien. Et c'est le seul endroit où tu peux te réfugier, entre guillemets, dans ta solitude. Tu comprends ? Et celui qui a le matelas sous le lit, pour laisser la libre circulation dans ce petit 9 mètres carrés, il met son matelas sous le lit et donc il perd son intimité. Je ne sais pas comment expliquer ça.
Il n'a même pas son micro-espace, quoi.
Tu comprends ?
Ouais.
Il perd son, voilà. Et en fait, on lui retire encore un truc hyper, hyper, hyper grave. C'est l'endroit où il écrit, c'est l'endroit où, où il lit, c'est l'endroit où il écoute sa musique, c'est l'endroit où, tu vois, c'est l'endroit où on fait tout notre queue, en vrai. On regarde la télé, c'est vraiment l'endroit où on fait tout. Mais forcément, quand toi, tu as envie d'être dans ton lit, écrire une lettre à ton proche, bah, celui qui a le lit superposé, bah, peut-être qu'il a envie de faire à manger. Tu vois, ou peut-être qu'il a envie de faire le ménage. Et donc, ça provoque en plus de ça des embrouilles en plus entre co-cellulaires, des tensions, tu vois.
Ça rapporte et, pouvoir aussi. Parce que...
Et ça, c'est quelque chose que la contrôleuse générale des prisons, elle n'explique pas, juste elle observe.
Ouais. Ouais, ouais.
Je croyais que c'était important de le dire.
Ouais, ouais. Exactement. Ensuite, ils expliquent, ce qu'ils arrivent à expliquer, c'est que cette surpopulation, elle a des conséquences. C'est-à-dire qu'ils ne doublent pas les effectifs de surveillants, ni de SPIP, ni de personnel médical. Donc, il y a l'effectif de tout ça pour la moitié des détenus. Donc, évidemment, c'est carrément l'enfer. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'activité. Les surveillants, vu que Bichette, ils ont des conditions de travail vraiment compliquées, bah, ils sont très absents. Donc en fait, bah, sur qui ça retombe évidemment sur les prisonniers, parce que j'imagine qu'il y a encore moins de déplacements et tout. Les soins ne sont absolument pas assurés. Il y a hyper souvent, il n'y a pas d'accès aux soins, vu qu'il n'y a pas de personnel et deux fois trop de prisonniers. Et en plus quand même parce qu'à la fin on voit que c'est pas juste un problème de moyens, déjà les problèmes de moyens comme partout, comme à l'hôpital etc, ils sont organisés par la hiérarchie, c'est pas, ça tombe pas du ciel, c'est pas juste qu'on manque d'argent, c'est juste qu'on a décidé d'organiser les choses comme ça. Mais en plus par exemple la direction de, enfin l'administration pénitentiaire, ils interfèrent dans les décisions médicales. Même quand le service médical dit telle personne doit avoir tel soin, telle extraction médicale, etc., l'administration pénitentiaire, il leur arrive de décider que non, il n'y a pas besoin de faire ces soins. Donc ça, elle le dénonce quand même, elle est un petit peu... Donc là, on parle de la contrôleuse des lieux de privation de liberté. Elle dénonce quand même ça. Elle dénonce aussi le fait que les équipes d'extraction médicale ont été remplacées par... c'est des équipes... les équipes locales de sécurité pénitentiaire, dont on a déjà parlé, bah ouais. Des matons super cagoulés, l'équivalent de la BAC cagoulée, mais en détention.
Mais c'est des ELAC, enfin, c'est les ELSP, c'est ça ?
Ouais, ouais, c'est ça.
Mmh. Ok.
Donc en fait, ils ont remplacé les équipes d'extraction médicale par les équipes de super sécurité, en fait. Donc évidemment, bah, c'est la merde pour le soin, et c'est donc pas qu'un manque de moyens. C'est aussi une gestion sécuritaire, quoi.
Ouais, c'est une décision politique.
Et ça veut dire que, en fait, ils ne vont pas faire d'extraction médicale parce qu'il faut qu'ils restent à l'intérieur pour pouvoir mater les prisonniers et les prisonnières. Voilà. Et donc, voilà. Et en fait, c'est tout le truc aussi qui n'est pas raconté dans ce rapport, mais en fait, qui en ressort, c'est que. Il ne parle pas du tout en fait, des rapports entre les surveillants et la détention et la direction. Voilà. Mais en fait, quand tu apprends que tu ne peux pas te doucher le week-end, bah, en fait, on sait très bien que c'est une victoire des surveillants. Parce qu'ils vont pouvoir faire du ouin-ouin sur le fait qu'ils ont des conditions de travail et tout ça pas bien, et que en fait la direction va leur accorder, voilà. Et donc elle en fait elle va pas faire ce pas-là. Nous on sait comment ça se passe généralement, mais là en fait voilà, on sait très bien que les matons là ils font du ouin-ouin dans le truc en disant voilà, je sais plus, c'est 36% là des gens qui prennent des arrêts de travail
d'absentéisme
et tout ça, mais en fait les impacts concrets que ça a sur les prisonniers, c'est qu'en fait ils obtiennent des trucs de la part de la direction et notamment ces extractions et aussi le fait de pas pouvoir se doucher.
Mais ça c'est dit dans le rapport?
Bah non, en fait c'est dit qu'il n'y a pas de douche le week-end, c'est dit voilà, mais par contre le lien,
oui, c'est pas dit pourquoi comment
ça se passe et comment en fait c'est géré à l'intérieur de la détention, ben voilà.
Par contre,
et aussi parce que en fait il a été formulé comme ça, c'est que après derrière les matons ils étaient ravis en fait de cette note parce que globalement comme tu le disais, Bichette quoi.
Et ouais, voilà. Bichette.
Alors que en fait en réalité ils obtiennent des choses contre les prisonniers déjà là-bas quoi.
Ouais, en fait, ils s'occupent de eux, leur confort, entre guillemets, perso, avec ce manque de personnel comme argument, entre guillemets. C'est ça ouais. Ou... Ok.
Mais par contre, elle et il, parce qu'en fait, c'est une équipe, ils ont noté quand même, ils ont fait 171 entretiens avec des prisonniers. Et ils ont quand même remarqué qu'il y avait énormément de récits de... Alors, eux, ils appellent ça des comportements inappropriés et des manquements déontologiques. Donc, nous, on appellerait ça plutôt caractéristiques de violence pénitentiaire, irrespect, injure, humiliation, agressivité verbale, voire physique. Voilà. Donc, c'est dit, c'est clair. Par ailleurs, ils disent qu'il y a eu un incendie en cellule, donc ça, on va en reparler plus tard, je crois, qui s'est déclaré pendant la visite et qu'ils ont bien pu constater comment, même en suivant le protocole de sécurité, l'incident a été particulièrement grave et la cellule a brûlé très très vite. Il y a eu le décès d'un prisonnier et l'hospitalisation d'un autre. Donc voilà, pareil, on en parle régulièrement des incendies de cellules. Bah, là, on voit, en fait, c'est structurel. Si une cellule, elle crame, les prisonniers, ils meurent. Parce que c'est fait comme ça, visiblement. Et autre chose structurelle, c'est les problèmes d'accès aux soins, dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle remarque plein de choses qui montrent, évidemment, et pareil, on en parle par ailleurs, il y a des gens qui ont des grosses difficultés dues aux accès aux soins, il y a des gens qui en meurent, et là, elle note très bien toutes les caractéristiques qui font que, oui, en fait, on peut crever en cellule, vu qu'on n'est pas soigné, vu qu'on n'est pas extrait, etc. Donc, il y a d'autres choses, et oui, il y a d'autres choses sur les conditions de détention, donc je vous en passe, hein, il fait super chaud, il fait super froid, il n'y a pas de fenêtres qui ferment, la gestion des déchets, c'est n'importe quoi, donc prolifération de nuisibles. Ce qui est dénoncé dans plein de prisons, là, c'est quand même particulièrement hardcore. Et la conclusion quand même du contrôleur des lieux de privation de liberté, c'est qu'il y a un projet de construction de nouvelles prisons et qu'il faudrait se dépêcher un petit peu parce qu'il va falloir multiplier les places en prison.
Ah, c'est ça la conclusion.
C'est ça la conclusion. Donc en fait, nous, on va rappeler une chose, c'est qu'en fait, ils enferment beaucoup trop et c'est pour ça. Ils enferment beaucoup trop, les moyens, ils vont dans la sécurité. Donc évidemment, les conditions, elles sont abominables.
Et c'est pas faire des nouvelles prisons qui va changer un bail.
Et puis des prisons, ils s'en est ouverts il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, c'est exactement les mêmes problèmes que quand elles étaient fermées. Donc c'est pas du tout la solution.
Exactement.
C'est une tâche de gueule totale.
Oui, et puis voilà, c'est bien facile de donner que cette solution et préconisation alors qu'on vient d'expliquer, de démontrer par A plus B qu'on est en train de surmaltraiter 800 personnes au quotidien pour des années, quoi. Ah.
Oui, et puis ce que montre ce rapport, c'est qu'on s'indigne du fait qu'il y ait des gens qui sont à 3 en cellule, 4 en cellule, en maison d'arrêt. Mais en fait, le principe théorique qu'eux, ils prétendent vouloir soutenir, c'est l'encellulement individuel. Donc, c'est même pas. En fait, on ne devrait même pas s'étonner de 3, on devrait s'étonner qu'il y ait des gens qui sont à 2 en cellule de 9 mètres carrés. Et enfin, un des trucs principaux de la prison, c'est la privation de liberté, de tout, toutes les libertés, toute la liberté. Et donc, la liberté aussi d'être avec qui on veut ou avec qui on ne veut pas être. Et ça, ce truc de base, en fait, même ça, il ne va jamais être respecté, même s'ils respectent leur truc de personne dans une cellule de 9 mètres carrés. Donc, en fait, leur principe de merde, c'est un principe bidon, le truc de l'encellulement individuel, c'est mettre en avant la surpopulation carcérale pour dire, en fait, il faut créer plus de tôles. Mais en fait, comme tu le dis, en fait, c'est pas une question de surpopulation carcérale, c'est une question de surenfermement de tout le monde. Et en fait, libérez les gens si vous voulez résoudre le problème. Il n'y a pas d'autre solution possible que... évidemment que s'ils construisent plus de tôles, ils vont mettre plus de gens dedans. Il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Et juste pour rappel, en fait, il y a certains endroits où c'est encore pire que ça. C'est-à-dire, par exemple, à Nice, dans la prison pour femmes de Nice, les meufs, elles sont parfois à 6 en cellule. À la maison d'arrêt de Nîmes, donc les mecs, c'est pareil. C'est une tôle où il y a 200% de surpopulation. Il y a des cellules à 6 personnes. Et dans les centres de rétention, il y a aussi des cellules où ils sont vraiment entassés, les gens. Donc,
Les cellules à 6 personnes, c'est pas 2 cellules en une.
Pardon, j'ai pas entendu.
Les cellules à Fleury, par exemple, il y avait des cellules de 6,
ouais.
Mais ils avaient collé 2 cellules ensemble, tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait 18 mètres carrés, quoi.
Si, mais du coup, tu partages les mêmes chiottes, la même toilette, ouais. La même cuisine, etc., quoi. Et il t'a encore moins d'intimité.
Pas faux. Très vrai même.
Toi, Sylvia, tu voulais nous parler d'un truc que tu as vu passer sur les réseaux.
Et alors, attends.
Pardon.
Vas-y.
Sylvia, on t'interrompt. On a Sylvia en ligne et on a quand même un nouveau venu qu'on va accueillir. Hein,
bah ouais, merde. Bon, y a Khaled qui vient d'arriver, je crois. Et du coup, c'est cool que tu sois avec nous. Bienvenue. Khaled, on le connaît. Vous l'avez déjà entendu ici. Et voilà. Et Sylvia, tu l'as raté. Bravo. Voilà.
Ah, je suis désolée, gros bisous mon Khaled.
Salut Sylvia, bonsoir, bisous aussi.
Merci.
Bisous.
Et bisous.
Ouais, ça va?
Ça va et toi?
Ça va.
Je suis désolée, on est occupé, on vous laisse.
Non, tu vas pas faire ça, non. T'avais un coup de gueule à nous passer, un truc comme ça, non?
Ouais, j'ai un coup de gueule en fait. Vous voulez que je commence par lequel coup de gueule? Parce que j'en ai deux en vrai.
Bah, choisis. Donc,
déjà, je vais commencer je suis en contact avec un jeune en détention et il me dit bah tiens, j'ai parlé de vous à mon avocate et en fait son avocate a dit ah là là, t'approches pas d'eux, c'est l'extrême gauche et voilà. En fait, mon coup de gueule c'est ça. C'est quand t'entends une avocate qui dit à son client qu'on fait partie de l'extrême gauche alors que d'une part il n'est pas question de parler d'extrême gauche, d'extrême tout droit ou d'extrême tout en arrière. On parle d'extrême vérité, en fait, tout simplement. On parle de gens qui sont en train de crever en détention. On parle de faits réels et on ne parle pas d'oseille, là. Quand on parle de ces prisonniers qui souffrent entre neuf dans leurs 9 mètres carrés et que de surcroît ces mêmes avocats qui disent ça à leurs clients, la plupart nous appellent pour pouvoir passer à l'antenne, mais comme nous on fait pas de publicité pour ces baveux en carton, on, bien évidemment on refuse. Voilà, en fait, c'est ça qui c'était un coup de gueule. Éviter ces avocats-là. C'est pas des gens, c'est des gens qui vont dans le sens de l'administration pénitentiaire. On est principalement des proches de prisonniers ou des anciens prisonniers. Ce qu'on parle de choses qui nous ont touchés de près ou de loin, mais qui sont là. Et ces avocats, à part venir en détention et qui vous voient crever parce qu'ils le savent que vous n'avez pas de soins. C'est eux que vous harcelez pour qu'ils se bougent leur cul et qu'ils ne se bougent pas. Voilà, donc c'est méfiez-vous de vos avocats avant de vous méfier de nous. Et après, et puis bougez pour vos clients. Peut-être qu'ils n'auront pas besoin de nous appeler. Voilà, ça c'était le premier coup de gueule. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Je ne sais pas si vous avez une chose à dire.
Bien sûr que tu as raison.
Tu as raison.
On est d'accord avec toi.
T'as toujours raison, Sylvia.
Non, lui dites pas ça.
Quand vous gonflez mon ego, c'est un régal. Oh. Mais il y a ça, et puis je voulais parler aussi, parce que tout à l'heure, elle parlait de feux de cellules en détention. Alors, des feux de cellules, il faut savoir que les matelas en cellules, c'est des tatamis. Hein. C'est des espèces c'est des tatamis, c'est comme ça qu'on appelle ça, Khaled, si je me trompe.
C'est des matelas,
les matelas en mousse. En prison.
C'est des matelas en mousse, soi-disant ineffigés, pour justement éviter de prendre feu, mais.
Mais ça, pas du tout.
Ouais,
c'est le premier truc qui prend feu. Bref, et en fait, il y a eu un fait de cellule à Caen. Il y a des vidéos qui ont été envoyées sur les réseaux sociaux. Et quand on voit cette vidéo et qu'on voit les flammes qui sortent de cette cellule, et qu'on sait que quand on met un feu, avant que ces flammes arrivent à sortir des fenêtres en fait, quand on voit cette vidéo, on sait que quand les flammes sortent, le mec, il est déjà mort asphyxié par la fumée et que le premier réflexe que quand il y a le feu, c'est de s'approcher de la sortie. Mais on peut pas sortir, donc on s'approche de la fenêtre. Tu vois ce que je veux dire? C'est dramatique. C'est dramatique. On entend ces gars qui crient par les portes, qui tapent aux portes en criant. Ça fait des heures et des heures qu'ils crient. En vrai, ça fait pas mal de temps qu'ils crient. Et quand j'entends la contrôleuse générale des prisons qui dit qu'il y a eu un feu de cellule qui s'est déclenché quand elle était là et que le processus n'est pas adapté. Il n'y a pas que le processus qui n'est pas adapté. Il y a aussi ces surveillants qui ne bougent pas le cul, en fait, et qu'on n'a strictement rien à foutre.
Oui, puis le simple fait que les cellules s'ouvrent pas automatiquement quand il y a un feu en dit long sur les priorités de l'administration pénitentiaire et comment ils considèrent les humains qu'ils enferment.
Non, puis quand il y a un feu de cellule, généralement, ils disent que c'est le prisonnier qui a mis le feu tout seul, mais en vrai, des accidents comme à Caen, d'ailleurs, puisque apparemment, ça serait un feu qui aurait été déclenché par une cigarette. Il s'est endormi avec une cigarette. Ou alors, par exemple, elle parlait de l'hiver, il fait très froid, et l'été, il fait très chaud. Et ben quand il fait froid, tu t'allumes tes plaques électriques en cellule pour faire chauffer la cellule, pour faire chauffer un peu plus, tu vois, pour donc ça peut être un effet d'accident aussi, tu vois. Et puis peu importe, t'as pas à mourir en cellule parce que ces gens-là, ils sont pas bougés le cul pour ouvrir les portes et faire le nécessaire.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Sylvia, en 2016, il y a eu un détenu qui a pris feu, c'était une torche vivante dans sa cellule. Je sais pas si vous êtes au courant, 2016. Ses codétenus le voyaient de la fenêtre, non, à Poissy, à la centrale de Poissy.
Non.
Ses codétenus criaient, tapaient. C'était une torche vivante, donc il était à moitié mort, en train de prendre feu. Et pour confirmer, pour compléter ce que tu dis, nous, les DPS, c'est déjà arrivé qu'il y ait des feux dans le couloir. Le surveillant ne suffit pas, il faut qu'ils aillent chercher les iris pour nous ouvrir la porte. Donc il peut se passer 2-3 heures. Et ça nous arrivait une fois avec Nino Merlini, paix à son âme. Je sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il n'y a pas d'arrangement. Salut l'artiste.
Yeah.
Et lui et moi, on était à l'isolement. Il y a eu le feu et ils sont arrivés une heure après. Heureusement, on a pris des serviettes, on a bouché les portes et les fenêtres. Et puis on est resté allongé au sol puisque là, il y avait encore un petit peu d'air frais. Mais à quelques minutes près, on aurait pu cramer aussi en cellule.
Ouais, vous avez surtout un bon réflexe parce que sans ce réflexe-là, vous serez peut-être plus là.
Il ne faut jamais ouvrir la fenêtre, ça fait un appel d'air.
On prend note.
C'est super important de le dire parce que quand à Villepinte, ce jeune homme qui est mort à Villepinte, qui avait fait un boom médiatique parce que les co-cellulaires avaient envoyé et médiatisé les vidéos, il y a les cellules d'à côté, ils ont été asphyxiés quand même aussi, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas eu ce réflexe-là, justement, de mettre cette serviette bouillie sous la porte. Et bien évidemment, la première chose que tu fais, c'est t'ouvres la fenêtre. Mais effectivement, ça fait un appel d'air, il n'y a pas photo. C'était mon deuxième coup de gueule.
Ouais, et puis c'est pas qu'un coup de gueule, parce qu'en fait, c'est récurrent. En fait. Enfin, on en parle quand même assez régulièrement. On sait qu'à peu près partout, ce qu'ils appellent des protocoles, en fait, n'en sont pas. Et on n'aboutisse qu'à laisser les gens... crever à l'intérieur et c'est pas acceptable quoi en fait voilà et voilà il y a enfin voilà c'est trop récurrent
mecs,
en fait
c'est comme les mecs qui se mettent qui se suicident en cellule c'est quand même compliqué parce qu'en vrai quand le mec il le fait il s'immole tu comprends ce que je veux dire dans son 9 mètres carrés c'est pas un simple geste c'est pas parce que ouais un feu de cellule s'est déclenché non le mec il s'est immolé dans sa souffrance faut arrêter de banaliser les gestes
oui puis on se souvient aussi de Christine comme tant d'autres qui a été parfois obligée de mettre le feu à des papiers en cellule pour que les matons daignent enfin lui ouvrir la porte et viennent répondre à ses demandes qui étaient en général des demandes assez basiques. Et en fait, ben oui, ce genre de choses aussi, ça peut déraper, quelles que soient les raisons. En plus, c'est juste que, évidemment, ça montre à quel point ils ne font aucun cas des humains qu'ils enferment. Parce que sûrement que s'ils en faisaient cas, ils les feraient sortir.
Ouais, puis il y a aussi le truc qu'on n'en entend jamais parler. Enfin, c'est un truc de fou.
Non, on n'en a pas parlé. Puis toi, dehors, on t'oblige à mettre des trucs là au plafond pour la sécurité, les assurances, ils t'obligent.
Détecteur de fumée, ouais.
Voilà. Pourquoi ils ne mettent pas ça en cellule? Alors, peut-être parce qu'à cause de la cigarette, je ne suis pas sûre que ça se déclenche. Ils ont qu'à. Puis, ce n'est pas notre problème. Faites des choses pour plus que ça arrive. Et puis, putain, ouvrez ces putains de portes de prison, bordel.
Ouais, peut-être ouvrez les portes, hein.
C'est plutôt ça, ouais, le truc.
Non. Et puis toutes les portes, pas seulement les portes de cette cellule, quoi, toutes les portes et tout. Je suis désolé de couper un peu rapidement ce truc.
Ça, non, faut je comprends rien. Faut... Ouais.
Bah viens.
Bah ouais, viens, on va en parler si t'es contrarié.
On en parlera demain.
Ok. Bon,
on te fait des grosses bises, Sylvia. Merci d'avoir appelé.
Ouais, gros bisous à tous et à toutes. Et puis, force, courage et détermination. C'est moi qui l'ai dit.
À très vite. Bisous, ouais, Sylvia.
Ouais, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Salut,
ciao.
Sylvia.
Ciao.
On voulait faire un dernier petit truc, parler dernièrement aussi des prisonniers très longue peine, voilà, et en particulier des Basques.
Ouais, mais attendez, excusez-moi, mais vous venez de dire qu'il y avait eu un feu à Caen et on n'en a presque pas parlé.
Bah, t'as d'autres infos ?
Non, je sais pas, justement, on a quoi comme info ?
On a ce qu'on vient de dire.
Il y a eu un feu de cellule et apparemment c'était sa cigarette, c'est tout ce qu'on sait. Mmh. Ok, mais il va comment le gars ?
On sait pas.
On sait rien du tout.
On n'a aucune info.
Bah, ok. Et donc, ces infos, on les a de où ?
Bah, appelle Sylvia.
Ok, d'accord. Non, mais parce que moi, j'ai vu tourner une vidéo sur des réseaux. Mais en fait, apparemment, c'est le seul truc qui est sorti. C'est que quelqu'un a fait tourner une vidéo. Mais en fait, on sait rien du tout. Bah, donc, c'est aussi un appel à s'il y a du monde qui veut ramener des infos, qui a des infos, qui sait comment va ce gars ou les prisonniers autour. C'est cool, si on peut relayer ça.
Ouais, il y a quelques années, il y avait une vidéo de... Le même type de vidéo du mitard de la Talaudière à Saint-Étienne. Et pareil, il n'y a jamais eu vraiment plus de nouvelles. Donc c'est vrai que c'est super important de donner des nouvelles, de faire sortir. Pas juste faire sortir une vidéo, mais que toutes les personnes qui peuvent essayent de construire un peu plus de discours et faire circuler des infos.
Bah, et puis pas on sait que plus on les regarde et plus on en parle... Moins, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais moins ça risque d'arriver, ou en tout cas plus il risque de faire gaffe. Enfin, en tout cas, c'est important de faire sortir ces infos-là, quoi.
Ouais.
Bah, c'est important de communiquer sur ce qui s'est passé et tout ça, et que en fait, après derrière, si la famille et les proches ils veulent faire des trucs, après, très honnêtement, c'est pas le truc dont on parle le moins. Enfin, dans voilà, et rien ne change. Et en fait, dans ce genre de situation, on arrivera toujours après coup, en fait. Voilà. Donc, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut, c'est que, comme d'hab, ça soit de l'intérieur qu'en fait on file les informations, parce que sinon, on n'aura que la version de l'administration pénitentiaire qui va nous dire que les clés étaient chaud le gradé, et puis le gradé était en train de boire un verre, ou voilà.
Et puis le temps qu'ils reviennent et qu'ils les donnent, et puis blablabla.
Comment ça fonctionne, quoi.
Ouais.
Juste rapidement, c'était pour prévenir que samedi 23 juillet, il y avait un appel au Pays Basque Nord, donc côté la frontière française, à faire blocage du Pays Basque, foutre du zbeul, pour demander exiger en fait la libération des prisonniers basques. En particulier Jacques Hénal, Unai Parot qui est en Espagne mais qui vient de Bayonne, et Yon Kepa Parot qui sont enfermés depuis plus de 31 ans, plus de 32 ans même pour Yon Kepa, alors qu'ils sont libérables depuis des années, qu'ils n'arrêtent pas de faire des CNE qui à chaque fois les laminent. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un échelon administratif ou un échelon de la pénitentiaire ou des tribunaux qui dit « Ok, il peut sortir », en fait, il y en a toujours un autre qui va bloquer. Par exemple, pour Yon Kepa Parot, en fait, il pourrait sortir théoriquement. La juge d'application des peines antiterroristes, par exemple, elle dit « Ok, il peut sortir ». En même temps, il a trouvé un taf, alors qu'il a plus de 70 ans, il a trouvé un taf, il va être en fauteuil roulant à taffer. Merci la prison. Mais en fait, le procureur de Bayonne et le procureur de Paris bloquent, et donc ils risquent de continuer à être enfermés, parce qu'ils suivent en fait les juges et les procureurs franquistes de Madrid, etc. Et pareil pour Irache, elle va être jugée en septembre. En Espagne, là pour l'instant elle est à Réau, et selon les directives et la jurisprudence européenne, elle devrait sortir, elle devrait ne pas être condamnée, mais il est possible que Madrid suive sa propre logique à elle, qui est de toujours foutre de la vengeance contre les prisonniers de terre. Voilà, donc c'était aussi pour rappeler le 23 juillet cette date au Pays Basque. Voilà.
On passe un petit coup de musique et on se retrouve très vite.
Oh Baba, ça va ou quoi mon refrain, tranquille?
Ça va, toi, on peut se voir ou quoi? Je suis sur Paris en ce moment.
Ah ouais? T'es sur Panama? Bah vas-y, tu sais quoi, je t'envoie une adresse sur Signal, appelle-moi quand tu y es, frère.
Allez, ça va, on fait comme ça.
Vas-y, salam.
Alors, papa, ça va ou quoi? Ça va rentrer?
Tranquille,
tranquillement.
Ça va.
Quelle bonne nouvelle, dis-moi.
Bon, je vais rentrer bonbon en ce moment. Ça te dit, tu te sens te mettre dessus ou pas?
J'avoue, je te mens pas, mon ref, en ce moment. J'ai arrêté avec ça, tu vois. Moi, je suis toujours comme avant, dans les bras comme mon ref.
Putain, tu as pas arrêté, toujours dans ça, hein, comme au bon vieux temps, hein?
Comme au bon vieux temps, mon ref. Ah ouais. Là, ça bouge pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? T'as vu tes potos à toi, là? S'ils peuvent m'avoir des temps d'explosifs, t'as capté pour un coup.
Qui est gros, là?
Ouais. Essaye de me brancher, s'il te plaît, avec eux.
Ouais, c'est bon, nickel, je suis bien en ce moment, c'est avec eux. C'est bon, je les vois là dans pas longtemps, je reviens vers toi direct, t'inquiète, c'est bon.
Fais comme ça.
Vous êtes bien de retour sur Fréquence Paris Pluriel, c'est l'envolé. C'était complètement foiré comme truc. Je me suis complètement planté dans le choix de la musique. J'ai un CD, je voulais mettre une petite chanson et j'avais pas capté que c'était juste l'instru de la chanson d'après. Désolé. Et en vrai, c'est comme d'hab, hein, faut bien qu'on fasse des merdes à l'antenne. Mais donc en vrai, c'est Niax qui est un rappeur du Val-Fouré et c'est trop de la bombe ce qu'il fait. Et donc on va écouter le reste. Après,
on a dit on faisait pas de pub pour les baveux, mais par contre pour les rappeurs c'est bon quoi.
C'est clair.
Surtout les interludes des rappeurs.
Désolé. On passe une bonne chanson de lui après. On en a déjà passé pas mal déjà à cette antenne.
Donc, au moins grâce à la boulette, t'as présenté le morceau de musique pour une fois à l'envolée, c'est pas mal.
C'est pas faux.
On taille, on vient une fois par an, on taille. Hein.
On peut.
Et donc, pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10.
Ça, c'est pour le direct, c'est pour nous appeler pendant la semaine, c'est le 07 52 40 22 48. On va passer sur la question de Mohamed Ben Mouna qui est mort en 2009 à Firminy.
Ouais, donc c'est pas une question, c'est quelqu'un.
Non, mais pardon.
donc j'en profite, vu que je passe une fois par an dans l'envolée et que j'arrive tout droit de Saint-Étienne. Pour venir parler de quelque chose qui se passe par là-bas et ce qu'on fait par là-bas. Donc, Mohamed Ben Mouna, c'était un jeune homme de 21 ans, je crois, qui est décédé en garde à vue au commissariat de Firminy en 2009, le 6 juillet 2009. Et version policière, version officielle, corroborée en 2 minutes 30 par le médical, par la police des polices, il s'est suicidé. Bien entendu...
En garde à vue ?
Il s'est suicidé en garde à vue. On va écouter un discours de sa maman Malika, vous verrez, c'est pas piqué des verres. Il s'est suicidé en 2 minutes dans des conditions complètement improbables. Donc évidemment, la famille n'y a jamais cru. Il faut croire que les jeunes du quartier et les potes et les proches n'y ont pas cru non plus. Et connaissait très bien le climat avec la police, vu qu'il y a eu des émeutes pendant 3 jours, si je me souviens bien, à ce moment-là. Donc dans Firminy, en 2009.
Du coup, Firminy, c'est à côté de Saint-Étienne.
Firminy, c'est une petite ville de banlieue à côté de Saint-Étienne, ouais. Et voilà. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'à l'époque, en fait, on faisait déjà une émission de radio contre la prison, qui traitait de tous ces sujets-là aussi à Saint-Étienne. Et nous, comme d'autres gens, on avait voulu espérer rencontrer les proches et tout. À l'époque, ça ne s'était pas fait parce que, il y a eu un grand changement depuis, c'est qu'il y a eu les réseaux sociaux. Donc moi, qui quand même suis très critique des réseaux sociaux en général, là-dessus, il y a eu ce changement-là qui fait que maintenant, c'est plus facile de rencontrer les gens. Et aussi, ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux, c'est aussi que depuis... Il y a quand même tout un mouvement de gens, de familles, de comités vérité et justice qui s'organisent, qui se rencontrent et tout. Et voilà, on peut dire vraiment que ça a donné de la force et ça fait que les gens ils se rencontrent et qu'ils sont moins seuls. Alors que là, la famille de Mohamed Ben Mouna, ils ont été quand même très isolés pendant des années et des années avec ça. Il y a eu une ou deux marches blanches à l'époque qui avaient été organisées. La famille est allée en justice, a porté plainte, etc. Bon. Et puis pendant des années, on n'en entend plus parler. Et s'ensuit en 2020 la mort de George Floyd, tué par les flics aux États-Unis. Et là, ça pète partout. Il y a des gros mouvements partout. Bon, je pense que tout le monde s'en souvient. Et là, la famille Ben Mouna se joint aux manifestations dans les rues à Saint-Étienne et reprend la parole et dit « Nous, on est encore là. Ça fait 11 ans. On n'a pas eu justice. La vérité, on la connaît et on continue. » Et donc là, il y a un peu des rencontres suite à ça. jusqu'à ce que, bah, donc c'est surtout Malika Benmouna, la maman, qui sort dans la rue, qui parle, qui prend la parole et tout, qui se joint à des manifestations, qui rencontre d'autres familles, qui rencontre notamment la famille de Idir Medeiros, qui est mort au Mitar à Corba, dont on a beaucoup parlé, qui est mort à la prison de Corba.
Du coup, c'est la prison de Lyon-Corba, c'est juste à côté, enfin, c'est pas loin géographiquement, quoi.
Ouais, et donc toujours, selon la version pénitentiaire, il se serait suicidé. La famille n'y croit pas, notamment parce qu'il y a un témoignage comme quoi ils ont subi des violences. Bref, ça fait des rencontres, ça fait un peu boule de neige, ça donne des forces. Et jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, on monte un comité justice pour Mohamed Benmouna pour continuer à parler de cette histoire, pour continuer à se mobiliser en soutien à la famille et tout. Voilà, donc je voulais profiter que je passais par là pour parler de cette histoire. Il y a diverses choses qui sont disponibles et publiées à ce sujet. Mais là, il y a eu le 6 juillet un hommage à Mohamed. Donc en fait, sa famille organise un hommage tous les ans qui a pris de la force un peu justement ces dernières années. Et là, dans le quartier où ils habitent maintenant, qui n'est plus à Firminy, ils ont organisé une très belle journée d'hommage à Mohamed, qui était autant un moment convivial, un moment de rencontre, avec aussi des jeux, aussi des discours, aussi un moment partagé. Et Malika, elle a fait un discours qui était vraiment très fort. Donc, on vous propose de l'écouter. On ne va pas le mettre en entier. J'ai coupé des petits bouts, je suis désolée. Il sera pour gagner un peu de temps là, pour la soirée parce qu'on a d'autres sujets. Mais il permet de présenter un peu l'histoire et son discours. Et Joël veut dire quelque chose avant.
Non, je voulais te rappeler visuellement qu'il fallait dire ça, que c'était juste des passages, des extraits.
Ouais, voilà.
Moi, j'ai plein de questions, mais je les pose après, du coup.
Ouais, voilà, on écoute, et puis ça dure 13 minutes. Malika Benmouna, la maman de Mohamed, mort en garde à vue en 2009.
Donc, je me présente, je suis Madame Benmouna Malika, la maman de Mohamed Benmouna, ici présent. Aujourd'hui, cela fait 13 ans qu'il n'est plus parmi nous. Pourquoi ? Parce que le 6 juillet 2009, Mohamed Layahmo s'est retrouvé en garde à vue. Ce jour-là, c'était un lundi matin, Mohamed, je l'avais réveillé pour aller travailler. Dans la matinée, ils sont venus, les policiers, avec Mohamed menotté à la maison pour faire une perquisition. Ça s'est bien passé. Donc moi, j'attendais le déroulement. Suite à ça, en fin d'après-midi, mon mari avait reçu un coup de téléphone en disant que nous avons votre fils à l'hôpital de l'hôpital Nord, service réanimation. Donc je me suis présentée à l'hôpital. Arrivée sur les lieux, aux alentours de 18h30, j'ai trouvé un mur de police. Quand je vous dis un mur, c'est à peu près une quarantaine de flics. Sur le coup, je n'avais pas compris. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous là pour mon fils? Non, mais c'est une blague. Pourquoi mon fils, il a fait quoi? Vous êtes tous là pour lui? Moi, dans ma tête, j'ai la logique. Mon fils, il est assis, menotté, mais pas... Donc, j'attendais. Et j'ai réclamé de voir mon fils. Je dis, monsieur, madame, je veux voir mon fils, il est où? On me dit, attendez. Donc, je faisais les 100 pas, puis j'attendais. Et d'un coup, je vois un médecin qui sort et qui discute avec le chef de police. Et je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, je veux voir mon fils, il est où mon fils? Donc après, suite à ça, il m'a dit, Madame Benmouna, suivez-moi, je vais vous emmener dans mon bureau. Madame Benmouna, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit... Votre fils a essayé de mettre fin à ses jours et malheureusement, son pronostic vital est engagé. Malheureusement, votre fils, on l'a retrouvé pendu dans la cellule de la garde à vue. Tout de suite, je dis, c'est pas possible, c'est pas vrai. Mon fils, il s'est pas pendu. C'est quoi ces histoires? Mon fils s'est pas pendu. Je connais mon fils. Donc, tout de suite, je me suis mis dans un état, je vous dis pas, en état de choc. Je me suis même évanouie. Après, j'ai repris mes esprits. Et de là, on m'a ramenée dans la chambre. Mohamed, il était allongé. Il avait les tuyaux autour de sa bouche. Il était tout bandé. Il avait la main gauche bandée. Il avait un œil rouge, comme si on lui avait donné un coup à l'œil. Il avait des traces autour de son cou, des machines. Il s'est dit, maman, laisse-toi, maman, pourquoi t'es comme ça, maman, j'ai pas compris. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi mon fils est comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, on me dit, non, non, faut pas le toucher, faut pas le toucher. Donc, suite à ça, j'ai repris mes esprits, puis... Et je me suis posé la question, mais pourquoi mon fils, il est bandé comme ça? Pourquoi? On ne me laissait pas le toucher. On était toujours surveillés. On était autour de nous, toujours un infirmier, une infirmière. Mais sur le coup, je n'ai pas pensé mon bavure. J'ai pas pensé à ça tout de suite. Moi, dans ma tête, il faut que Mohamed, il se réveille, il guérit. Suite à ça, toute la famille est venue. Et ensuite, on est rentré à la maison. Donc, on habitait à Firminy à cette époque-là. Arrivé à la maison à Firminy, nous avons vu le voisinage, la famille, tout le monde est venu. Et le déroulement, vous savez comment ça se passe quand il y a un drame dans la famille. Vous avez de la famille qui vient. Suite à ça, moi, dans ma thèse, j'attendais le déroulement de... l'état d'esprit, de l'état de santé de mon fils. J'étais pas dans l'état de judiciaire, porter plainte. Et après, on a compris qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé une bavure. Que l'État français, que la justice française ne veut pas reconnaître. Donc mon mari a porté plainte. Le lendemain, a porté plainte... à la gendarmerie. Et le 8 juillet, nous avons débranché Mohamed. Mohamed, il est mort le 6 juillet, oui. Mais cliniquement, il était mort, mais ils l'ont débranché le 8. Suite à ça, il y a eu des émeutes dans le quartier pendant 3 jours et 3 nuits. On était en état de guerre. L'hélicoptère qui tournait autour du Grand H, c'est un grand bâtiment. La police, les CRS, jour et nuit, il y a eu des émeutes. Nous, la famille, on a dit stop aux jeunes, ça ne sert à rien. Mais avec du recul, j'ai compris les jeunes, parce qu'ils étaient contre ça. Ils savaient qu'il s'est passé quelque chose pour Mohamed. C'était leur frère, c'était leur pote. Ils savaient très bien que Mohamed ne s'est pas suicidé. Mohamed, on l'a tué, et je pèse mes mots. Mohamed a été assassiné par les flics. Ils étaient un, ils étaient deux, je ne sais pas. Tout ce que je sais... que Mohamed, il s'est pas pendu. Ah oui, suite à ça, le 17 juillet, nous avons ramené Mohamed enterré en Algérie. Quand nous sommes partis en Algérie, ce jour-là, la police des polices, avec toute la thèse de justice, ils ont fait une reconstitution. Qui veut dire une reconstitution? Ils ont refait le cheminement de tout comment ça s'est passé le jour-là, ce jour-là en garde à vue. Mais comme par hasard, ils l'ont fait entre eux. Qui dit entre eux, entre flics. Et pourquoi la famille Belmouna n'était pas présente? Parce qu'on était, on ne savait pas, tout simplement. Encore une fois, on nous cache des choses. Encore une fois, la justice, elle fait leurs choses à leur manière. Encore une injustice. Nous, la famille Belmouna, on porte plainte, on continue, et on dit justice pour Mohamed. Par contre, quand nous sommes partis en Algérie pour enterrer notre fils, la Yahmo, en revenant d'Algérie, on trouve une surprise dans notre boîte aux lettres. C'est une blague. Sale arabe, sale bougnoul, bien fait pour votre fils. Vous profitez des allocations familiales. Vous profitez du système français. Il ne mérite que ça, votre fils. Sale bougnoul, sale arabe. Ils m'ont même insulté notre prophète. Et j'ai les lettres à la maison. Tout anonyme, c'est bien facile tout ça. Mais comme on dit, il y a un bon Dieu. Voilà. Encore une fois, on a porté plainte. et encore une fois une injustice. Pourquoi? Parce qu'on est des Arabes. Voilà. Et suite à ça, donc nous, en 2009, quand on a porté plainte, il y a le système judiciaire. Le système judiciaire qui veut dire police des polices porte plainte, fait l'enquête. Et nous, la famille Benmouna, on a fait une plainte. Donc ils ont dit, ah ben Mohamed, il s'est suicidé. On estime qu'un saint suicide, eh ben il n'y a pas lieu de faire un procès. Donc il n'y a pas eu de procès. Mais moi, j'étais tellement, moi Malika, comme vous voyez, j'étais tellement dans la douleur, tellement dans le choc, je ne lisais pas les dossiers. Je ne cherchais pas à savoir les petites choses de la justice. Pour moi, je faisais confiance à la justice, je faisais confiance à mes avocats. Mes avocats, ça me fait bien rire tout ça. Ils sont là que pour le fric, hein. Ah, il n'y a pas moyen. Ils vous font du blabla, mais ils sont là que pour la monnaie. Mais moi, encore une fois, Malika, très idiote, voilà, avec le cœur toujours, avoir confiance aux gens, eh ben, je me suis fait bien berner. C'est-à-dire, j'ai vu qu'ils n'ont rien fait dans mon dossier. Il a été travaillé, mon dossier. On va dire ça comme ça. Alors, encore une fois, une injustice. Donc, avec tout le déroulement, on a porté plainte, il y a eu la police des polices a fait le nécessaire, la juge en question a dit bah, c'est un suicide, donc un non-lieu. Alors on continue sur une cassation non-lieu. Et en 2015, la Cour européenne des droits de l'homme a fait le final. Pas besoin de continuer, tout ce qui est au pénal, c'est fini. Mais moi, Madame Benmouna, elle continue. Elle lâche rien. Je continue. Alors, je vais aller plus haut. Et je vais crier. Et je vais aller dans la rue. Et je vais aller sur les réseaux sociaux. Et j'ai une grande gueule. Même on peut me dire, mais arrête, ça ne sert à rien. Mais arrête, ça ne va pas le ramener. Oui, ça ne va pas le ramener, mon fils. Je le sais. Je sais que Rabbi l'a pris. Mais la justice de ce bas monde, je ne lâche rien. Tant que je serai vivante, je ne lâche rien. Parce que mon fils ne s'est pas suicidé. Comme ils disent. Merci. Comme ils disent. Récemment, j'ai pris une bonne claque. Comme si j'étais dans un coma et je me suis réveillée. Donc, grâce à une personne que je ne vais pas citer, qui m'a ouvert les yeux en quelque sorte. Et là, j'étais piochée. Voilà. Malika l'a dit, bah tiens, tu vas faire des lettres et tu vas réclamer ton dossier pénal intégral. Donc j'ai demandé à voir le dossier que j'ai pu consulter. Une partie, je dis, hein, parce que c'est deux piles de dossiers, c'est pas en deux jours que je peux tout consulter. J'ai été très surveillée et donc j'ai pris des notes. Et j'ai constaté que dans ce dossier, il y avait beaucoup de choses incohérentes, beaucoup de choses maquillées, beaucoup de mensonges. Moi qui n'ai pas fait des grandes études, mais je ne suis pas une idiote, j'ai tout capté, j'ai tout dans ma petite tête. Moi c'est pour faire à ma manière, pour remontrer les choses. Mais moi au fond de moi, sa maman, je la sais la vérité, je n'ai pas besoin de dossier. Pas besoin de justice, je la sais la vérité, mais je vais le prouver. Et même avec des preuves accablantes, ils ne nous donnent pas raison. J'ai remarqué dans ce dossier, comme ils disent, écoutez bien messieurs, dames, soi-disant, en 2 minutes, je dis bien en 2 minutes, que Mohamed aurait déchiré le matelas, dans un matelas indéchirable, matière indéchirable, c'est-à-dire comme du plastique, les matelas dans la gym, à la gymnastique. Il aurait fait à 1m30 du sol, un trou dans le mur, en placo-plâtre, qu'on ne peut même pas mettre une punaise. Les fesses collées au sol, dos au mur. Et avec ce lien du matelas, mettre un morceau dans le trou, le ressortir et se pendre en 2 minutes, fesses collées au sol. Mais mon fils, en 2 minutes, c'est qui? Comment il aurait pu faire ça? C'est impossible. C'est vraiment impossible. On peut le calculer mathématiquement, on peut le calculer dans tous les sens, c'est impossible. Encore une fois, ils nous prennent pour des imbéciles. Et c'est là que je dis, c'est faux, vous avez tué mon gamin, c'est faux. Donc je continue mon combat. Il n'était pas suicidaire, il aimait la vie, il était assoiffé de la vie. Il avait des projets, Mohamed. Et là, il aimait tout, quoi, comme tous les jeunes. Il aimait la moto, le quad, les meufs. Il aimait tout, Mohamed. Ce qu'il aimait le plus, il aimait sa mère. Il ne m'aurait jamais laissé comme ça, en pleurs, jamais, jamais.
Voilà, donc on vient d'écouter le discours de Malika Benmouna, la maman de Mohamed, mort en garde à vue le 6 juillet 2009 au commissariat de Firminy. C'est un discours qu'elle a fait là, le 6 juillet 2022, à l'occasion d'un hommage qui a été organisé par le comité justice pour Mohamed Benmouna et la famille, voilà, comme tous les ans. Et donc, pour rappeler, bah voilà, ces histoires, elles sont très dures, on en parle très souvent, trop souvent. Et ben on rappelle que c'est parce que ces personnes se bougent que les choses peuvent peut-être un peu bouger et qu'elles ont besoin de soutien, qu'elles ont besoin de force, elles ont beaucoup de force, beaucoup de puissance et que donc elles ont besoin qu'on soit à leur côté, qu'on raconte ces histoires, qu'on s'en préoccupe. Et ce qui est important et ce qui donne de la force aussi, c'est le fait de connecter toutes ces histoires. Parce que dans cette histoire, il y a des similitudes avec plein d'autres histoires de personnes mortes entre les mains de la police ou mortes en détention. Et que c'est qu'en se rencontrant, en convergeant, qu'on peut avancer. Voilà. Et aussi pour rappeler que c'est parce qu'il y a eu 3 jours d'émeute à Firminy, suite à la mort de Mohamed, qu'on en a entendu parler. Donc ces questions, c'est toujours un peu compliqué. Mais en fait, c'est vraiment parce que ces gens savaient pourquoi... Ils se doutaient de comment leurs potes et leurs connaissances étaient mortes, qu'on a pu entendre parler de ça. Et que 13 ans après, on en parle encore.
Et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé 13 ans après. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Ouais. 13 ans après, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé.
Ouais.
Mais on sait dès la première seconde qu'ils mentent. Quoi. Il dit on nous prend pour des imbéciles. C'est vraiment incroyable. Cette...
Et pour la reconstitution, ils n'étaient même pas présents. Il n'y avait aucun membre de la famille.
Ouais.
C'est vraiment du foutage de gueule. Quoi.
C'est vraiment le foutage de gueule systématique qui fait qu'il faut continuer à en parler, il faut pouvoir se rencontrer pour en parler, parce que c'est vrai que ça arrivait à plein d'autres gens. Donc on a eu un appel, on est désolé, on va un peu passer sans transition, je pense, parce qu'on a eu un appel en direct... Et qu'on va devoir, on va
s'adapter. On change un peu le programme.
Ouais, c'est bien.
On a des gens au téléphone avec nous. Allô, tu nous entends?
Ouais, je t'entends. Ouais.
Voilà, tu racontes-nous un peu là. Tu viens de nous appeler là. Il y a 10 minutes, et donc on change un peu le programme de l'émission.
Bonjour.
Salut à toi.
Salut.
Salut.
Salut, ça va? Bonjour.
Bah, c'est à vous qu'il faut demander ça.
D'où est-ce que t'appelles?
Je m'appelle Boudjima Tahir.
Tu appelles d'où? Où est-ce que tu es?
Je suis au centre de détention. Retention.
À Vincennes. À Vincennes.
Ok.
Okay.
Et il y a un truc qui est en train de se passer en ce moment?
Ouais, je l'ai fait de grève de faim. J'ai mangé deux copangs et 3 lames rasoirs dans mon ventre. J'ai fait une grève de faim, j'ai pas mangé, et j'ai un problème. Le docteur, il m'a relâché, et le juge, il peut pas me relâcher, je sais pas pourquoi. Le préfet de ici, il peut pas me relâcher, je sais pas pourquoi. Je suis grave. Ils m'ont envoyé à l'hôpital psychiatrique. J'arrive pas parce que j'ai mangé des trucs. J'ai mangé 2 copons et lame rasoir. Des lames rasoir.
Ouais, c'est un truc qui est fait. Parce que là, j'imagine qu'il y avait ton vol qui commence à être prévu, non? Ou il y avait un bail comme ça?
Ils voulaient t'expulser, c'est ça?
Ouais.
Ok.
Parce que moi, pourquoi ils m'ont ramené ici? Parce que j'ai un virus avec un policier. J'ai passé sur BFM TV. Moi, j'ai passé sur BFM TV. Ils m'ont cassé 4 dents à Palais de Justice de Clichy. violence, à pas les justice de Clichy, ou le voir toute la vidéo. Okay. Vous le regardez toute la vidéo. J'ai un violence, j'ai un jugement contre le policier. Les policiers, je sais pas, ben, ils connaissent le préfet ou je sais pas quoi. Ils ont fait ça. Ils m'ont ramené en direction détention. Non, moi, j'ai un jugement. Ils ont venu police de police. Ils ont fait l'enquête avec moi. Après, j'ai passé chez le procureur. Il m'a fait l'audition et tout. Et après, regarde qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont cassé 4 dents. Il m'a dit, ils sont anti-dents. Est-ce que les dents qu'ils ont tombé, je peux le ramasser? Je veux le prendre avec moi? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est la loi française, c'est comme ça?
Et oui, ils t'ont non, foutu. Ils t'ont foutu directement en taule ou après derrière ils t'ont foutu en centre de rétention administrative?
Avant, ils me ramènent moi en centre de rétention. J'ai un jugement avec le policier contre le policier. Il a cassé 4 dents de moi. Le 4 avant.
Et c'est toi qui t'es retrouvé en taule à sa place?
J'ai passé sur BFM TV à la télé. Ils m'ont passé sur BFM TV à la télé. Je suis mis sur YouTube, ça sort maintenant la vidéo. Violence à pas la justice de Clichy 2018. Ça va sortir un mec, il saute sur un petit.
Et du coup, est-ce que pendant le juge des libertés et de la détention là, qui renouvelle ton placement en CRA, il ressortent cette histoire pour donner ça comme une raison de t'expulser?
Non.
Okay.
Non. Aujourd'hui, ils ont fait les radios, ils ont trouvé les lames, ils ont rien. Il m'a dit, t'as fait grave de... Enfin, ils ont trouvé le
coupon, là.
Comment il s'appelle? Je sais pas. Ils m'ont trouvé le sucre tombé sur le sang.
Hypoglycémie?
Ouais. Ok.
Ils m'ont trouvé grave et tout. Ça fait 4 jours que j'ai pas mangé. Et ils m'ont cassé 4 dents. Ils ont trouvé les lames et deux coupons dans mon ventre.
Ok. Et toi, t'as fait ça pour protester contre ce qui t'est arrivé?
Pour je veux suicider. C'est la vérité. Je veux suicider parce que ils ont pris. Parce que la police m'ont cassé mes dents. À pas les justices du cliché. Vous le regardez, la vidéo, vous me dites c'est quoi ça? Est-ce que c'est comme ça la loi française, c'est comme ça ou c'est pas comme ça? Mais violence, à pas les justices du cliché 2018. Ça va sortir ma vidéo.
Pendant la garde à vue, ils t'ont cassé les dents?
Non, à pas les justices.
Au palais de justice, t'étais même pas en garde à vue.
Tu vas le voir, la vidéo, il n'y a aucun problème.
Ok. Et ben, alors, nous, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il faut qu'on reparle avec toi en off, là, pour essayer de faire le point et être sûr que tu peux être mis en sécurité au maximum. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux qui passent à l'antenne là tout de suite?
Tu m'as dit quoi? J'ai pas compris.
Est-ce qu'il y a d'autres trucs, il y a d'autres trucs qui te semblent importants de dire là maintenant? Parce que je pense que en fait c'est plutôt une, il va falloir qu'on discute avec toi un peu posément, de voir comment on peut faire pour te filer un coup de main dans la situation qu'il y a là, voilà, sachant qu'on n'est pas non plus des experts ni quoi que ce soit,
vous lancez le vidéo sur un truc,
ça pas de problème, on a compris.
Mais donc, voilà, parce que t'étais avec un poteau là tout à l'heure quand t'as appelé là. Allô? Allô?
Allô, ouais.
Ouais. T'étais avec un pote tout à l'heure quand t'as appelé, non?
Ouais.
Donc là, vous êtes ensemble tous les deux?
On est ensemble, ouais.
Ok. Et donc, il peut checker auprès de toi s'il y a des soucis.
Il y a pas, lui il y a pas de souci, il a avalé du truc, il a avalé un grand coton.
OK. Bah là, les gars, moi ce que je vous propose c'est que on se rappelle soit ce soir là, soit demain là. voilà, pour qu'on puisse discuter un peu et tout ça. Voilà, que là, vous soyez vachement attentifs entre vous sur comment va chacun, enfin, comment vous allez respectivement. Voilà, vous avez un téléphone, donc vous savez comment ça se passe quand on est en CRA et que c'est pas les keufs qui vont venir appeler les pompiers, c'est vous qui allez devoir le faire s'il y a un souci. Voilà.
Mais du coup, n'hésitez pas à le faire.
Voilà, on va pas imaginer le pire et tout ça, mais en tout cas là, ce qu'on peut principalement vous conseiller, c'est de prendre respectivement soin de vous l'un de l'autre. Et puis nous, on va se rappeler pour voir ce qu'on peut faire sur d'autres trucs, parce que là, on est un peu démunis en fait par rapport à ce que tu nous racontes, parce que, enfin, tu vois, nous, on peut pas faire grand chose à part juste donner la parole et dire le truc, ce qui se passe et tout ça, et c'est important que ça soit dit, mais on peut pas faire d'autres choses, et là, il y a quand même une urgence assez forte. Voilà.
En fait, on va dire quand même ce qu'on dit régulièrement, c'est que déjà, c'est important de l'avoir dit parce que maintenant, c'est raconter publiquement ce qui vous arrive. Donc, c'est déjà bien, on sait ce qui se passe. Après, c'est pas non plus, c'est pas ça qui va vous sauver non plus, faut pas se faire d'illusions, mais au moins, ça permet que ce soit dit publiquement ce qui se passe et ce qui arrive trop souvent. Et ce qu'on va dire aussi, c'est que, en fait, prenez soin de vous. Que si vous faites du mal, l'administration française qui vous enferme, elle en est responsable, mais ça lui est égal. C'est pas à eux que vous faites du mal, c'est à vous. Donc prenez soin de vous, soyez forts. Et on sait que eux, ils sont sans pitié. Donc faites très attention et prenez soin de vous, faites gaffe à vous.
Ok, merci beaucoup.
Laïsahel.
À très vite.
À plus. Dernière chose, si les pompiers ça marche pas, essayez le SAMU, parce que les pompiers ça reste des militaires, ils sont un peu potes avec les keufs. Essayez le SAMU le 15 si ça marche pas.
Plutôt que le 18.
Je sais pas si vous avez entendu, mais bon, vous êtes encore en ligne normalement, vous devriez. Ouais. On va passer un petit coup de musique.
Juste un truc, je voulais en profiter pour dire qu'il y avait une grève de la faim aussi au CRA de Marseille cette semaine. Et ils dénoncent les conditions spécialement sanitaires, notamment le fait qu'il y a des cas de tuberculose et de Covid, et qu'il y a quasiment tout un bâtiment qui a fait une grève de la faim pour contester ça, le fait qu'ils soient même pas libérés alors qu'ils ont la tuberculose, qui est extrêmement contagieux, etc.
Cartoons, acting, and when they see you got a vicious style, they be wanting to get loose about it. No, that's keep it going.
It's for you. It's for you. Bang. Yeah, it's for all my street niggas. Feel it. On the count of three, say fuck the police. 1, 2, 3, and fuck the police. Yeah, fuck them. Applaud any nigga.
Damn right.
Cause we can lose a few, but we got enough of them. My niggas on the corner, they be dodging and ducking them. Chickens getting pulled over, end up crushing them. For real. And see, now we got these fake cops. I thought he had a gun. I made a mistake, cops. I hate cops. Turn on the TV. Is this another cop busted for illegal business? They got it control. They got it in their minds. They pulling you over. They hopping inside. Just know you got drugs and know you got guns. And they know when they mad, when they can't find none. Stupid, don't you know that your man is a stash box? That he be in, they need a key to get in it. In the offended people suck my balls. All y'all off the wall, get stupid, dawg. Don't hold back, don't let go, go. Don't say damn, just say whoa. The police, 1, 2, 3, and fuck. Yeah, don't they know it's dangerous in these streets? Don't they know it's gangs of us? We roll deep, we OGs, fill up the whole team. Ill with the flows, ill with the beats, ill in the rover. It's over for hold these. The reason we hold things is no peace in the streets with the police in the streets. Yo, it's cops that old niggas stole for O's and keys. It's more than a beef with the 5-0 in the streets with the 5-0. It's a game of survival. And who protects me from you when I got peeps who rock texts and weed from you? and all the niggas seeing the news. Cop corruption, niggas getting popped for nothing. And niggas getting stopped, the cops pull out blocks and bust them. Y'all need to get shot for nothing. Cause we don't hold back, we let go. We don't say damn, we just say whoa.
Vous êtes toujours en direct sur l'émission de L'Envolée jusqu'à 20h30. Pour rappel, on va juste rappeler le téléphone portable puisqu'il y a quelqu'un à l'antenne déjà et que ça va être la fin de l'émission. Pour nous appeler pendant la semaine, c'est le 07 52 40 22 48. Vous pouvez nous écrire aussi à L'Envolée à FPP, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris.
Et on est aussi sur tous les réseaux et on est joignable à contact@l'envolée.net ou sur le site l'envolée.net.
Et donc ouais, on a quelqu'un en ligne du comité pour Vincenzo Vecchi. Salut. Tu nous entends ?
Oui, j'entends.
Super. Salut.
Salut.
Donc, Vincenzo, on en a quand même parlé quelques fois à cette antenne. Vous étiez passé il y a 3 ans, parce que ouais, cette histoire remonte à il y a plus longtemps que 3 ans. Mais en tout cas, c'est il y a 3 ans que la justice italienne, en collaboration avec la justice française, ou en tout cas avec les flics français au moins, sont venus arrêter Vincenzo au milieu de la Bretagne. Voilà, c'était il y a quasiment pile poil 3 ans. Voilà, et là il y a une décision hyper importante qui a été prise, c'est d'une certaine manière quasiment la dernière, voilà, parce que c'est la Cour européenne de justice qui, bah, on va revenir un peu plus précisément sur c'est quoi en fait ce que acte la Cour de justice européenne comme ça, mais globalement voilà, ils autorisent l'extradition de Vincenzo en Italie. Ce qui est reproché à Vincenzo, c'est d'avoir participé à cette on va la qualifier de grande fête populaire qui a eu à Gênes, voilà. Mais ça n'a pas été complètement qu'une fête, parce que faut pas oublier qu'ils ont tué. Ça y est, j'ai un trou.
Carlo Giuliani.
Voilà, donc les flics et les flics se sont donnés. Enfin voilà, on tabassé un certain nombre de gens, absolument. De manière complètement hallucinante et d'une violence assez démesurée. Enfin voilà, ça a fait partie de ces augmentations de la violence dans la répression du mouvement social. Et tous ces flics en fait ont été condamnés puis acquittés. Voilà. Mais ce qui n'est pas le cas pour Vincenzo. Voilà. Est-ce que tu peux nous repréciser un peu voilà qu'est-ce qui s'est passé, enfin déjà quelles sont les lois qu'ils ont utilisées pour condamner Vincenzo quand il n'était pas présent à son procès?
Alors ça c'est en Italie. Mais alors d'abord je voulais dire un truc, c'est qu'en fait la Cour de justice européenne elle recommande que Vincenzo soit renvoyé en Italie. C'est une recommande de façon un peu autoritaire.
Oui, c'est ça.
Surtout. Oui. Et donc, oui, ben alors en fait, Vincenzo, il a été condamné la confirmation pour l'histoire de Gênes a eu lieu en 2012. Mais en fait, il y a eu plusieurs moments. Et l'amnistie générale, il y a eu une amnistie générale pour les inculpés de Gênes. Ça a été en 2006. Et donc, c'est ça qui a permis que tous les policiers qui avaient été condamnés pour Gênes, ils ont jamais fait de prison parce qu'ils étaient tous condamnés à moins de 5 ans. Mais ceux qui avaient plus de 5 ans, ils ont pas profité de cette amnistie. Et donc, Vincenzo et ses 9 camarades, enfin, les 9 qui ont été condamnés en même temps que lui, on les appelle les 10 de Gênes, ils ont été condamnés à 100 ans de prison. Et pourquoi à 100 ans? C'est parce qu'en fait, ils ont ressorti pour les condamner un chef d'accusation qui s'appelle pillage et dévastation et qui en fait est considéré en fait comme un crime qui considère le pillage et la dévastation comme un crime d'État parce que ça s'applique au en fait c'est une loi qui date de Mussolini et qui s'appliquait aux armées qui pillaient des villes par exemple et donc c'est un crime d'État, ça veut dire que c'est que c'est plus un délit, c'est un crime. Et donc, la peine plancher, c'est 8 ans. Ce qui fait qu'en fait, ils ont eu des très lourdes peines parce qu'ils leur ont appliqué ce délit-là. Et derrière ce délit-là, il y a plein de faits qui reprochent. Et en fait, et la particularité scélérate de cette loi, entre autres, enfin surtout, d'abord, c'est qu'on peut condamner sans preuve. C'est-à-dire simplement parce que tu étais là, à ce moment-là, et que tu t'es pas opposé à ce qui se passait, ou en tout cas que tu es considéré comme étant consentant dans ce qui se passe, eh ben, tu peux être condamné. Et ça a été le cas de Vincenzo. Vincenzo, il n'y a aucune preuve tangible contre lui. Et pourtant, il a été considéré comme coupable pour tout ça. Et c'est pour ça qu'il a eu 12 ans de peine. Et en fait, ils sont venus 20 ans après le chercher, pratiquement 20 ans. Maintenant, ça fait 21 ans. Donc ça fait effectivement il y a 3 ans, ils sont venus le chercher en Bretagne pratiquement 20 ans après les faits, quoi.
Ouais, donc ça c'est reproché. Ça c'est dans toute la logique en fait du réchauffement, je sais pas comment le formuler, mais en tout cas du truc vraiment dégueulasse qui est en train de se passer entre l'État français et l'État italien de rapprochement des polices. Et on en a parlé la semaine dernière ou celle d'avant aussi pour les anciens militants italiens sur la question de l'extradition et tout ça. Et donc il y a vraiment des accords qui sont passés entre la France et tout ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que en fait il y a eu différentes décisions de justice la cour de Rennes, puis après derrière ça a été la cour d'appel de
d'Angers.
Voilà, merci. Et donc c'est monté jusqu'à la cour de cassation, mais donc à chaque fois pour différentes raisons juridiques et tout ça, parce que ils ont fait des faux mandats d'arrêt, ils ont vraiment construit,
c'est une saga, ça mériterait
quand on a préparé l'émission, on disait que on allait avoir besoin d'une heure pour développer tout si on voulait le faire vraiment en longueur. Mais bon, ils ont tout essayé du côté policier en fait, faire en sorte qu'il soit extradé, mais les juges ont à chaque fois dit non, ça marche pas.
Ah oui, en fait c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait ils ont envoyé un faux mandat d'arrêt européen pour une peine qui avait déjà été exécutée au début. Ça a été débusqué par le comité de soutien, parce qu'il y a eu le comité de soutien à Vincenzo. Il s'est fait dans les 3 jours qui ont suivi son arrestation. Donc on a été chercher des papiers en Italie, etc. Donc on a prouvé à Rennes que il y avait un des 2 mandats d'arrêt européen contre lui qui était faux. Et Rennes a dit que le deuxième mandat était pas valable parce qu'en fait il y avait un vice de procédure, de la procédure venant du procureur général. Mais à chaque fois, il y a pourvoi en cassation du procureur. C'est-à-dire, effectivement, derrière, on sent bien l'exécutif. Donc ça a été la première fois à Rennes, ça a été ça. Il y a eu pourvoi en cassation. Quand en cassation, ça a été jugé automatiquement, directement, le jour même, la réponse a été donnée. Eh ben non, c'est pas valable. Donc ils ont renvoyé sur une autre cour, celle d'Angers, parce qu'elle était loin de Rochefort-en-Terre. Donc ça permettait aussi de penser que le soutien s'affaiblirait parce qu'on était loin et qu'il fallait se déplacer, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu des tas de soutien à Angers même. Et en fait, la deuxième cour, elle a encore donné raison à Vincenzo. Elle a dit que c'était pas possible de lui appliquer pillage et dévastation en France parce que ça n'existe pas dans le code pénal. Et surtout, même s'il y a des choses qui ressemblent un peu, c'est pas des crimes d'État. C'est-à-dire, ils sont pas du tout passibles du même nombre d'années de prison, et donc que l'objet du délit c'est pas le même. Et donc à cause de ça, ils ont dit bah non, le mandat d'arrêt européen pour pillage et dévastation, on peut pas l'appliquer. Tout ce qu'on peut faire éventuellement, ça c'était peut-être aussi pour ménager l'Italie, ils ont dit tout ce qu'on peut faire, c'est comme il avait aussi des inculpations qui étaient en dehors de pillage et dévastation, ce qu'ils ont dit c'est que bon, ben pour les autres griefs dont il est reconnu coupable, et ben à ce moment-là on propose qu'il fasse ses peines en France, mais c'était pas grand chose, et comme il en avait déjà fait une bonne partie, finalement il allait pas en prison. Il faut dire en plus que dans pillage et dévastation, il y a 2 items qui font partie des choses qu'on reproche à Vincenzo, dont la justice française ne le reconnaissait pas coupable, parce qu'en fait, c'était marqué en toutes lettres qu'il était reconnu coupable parce qu'il était dans les environs d'un endroit où il y avait eu un pillage de magasin ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, là, mais là, clairement, dans le jugement, c'était marqué qu'il n'était pas sur les lieux, mais qu'il était ailleurs. Et il le condamnait quand même pour ça. Donc là, la justice française a dit non, là, c'est pas possible. Parce qu'il y a quand même la présomption d'innocence en France. Et là, on peut pas appliquer. Donc il y en a deux des sept qui sautent. C'est comme ça que tout a démarré. Donc ils ont dit non. Et à ce moment-là, deuxième pourvoi pourvoi à nouveau du procureur général qui a demandé à la grande, encore à la cassation de légiférer. Là, c'était la grande cassation, c'est-à-dire cinq juges. Ou je sais plus exactement le nom, mais beaucoup de juges. Et là, ils ont pas donné tort à la Cour d'Angers, mais ils ont dit, ah oui, mais on peut pas juger parce que, au niveau de la loi européenne, le mandat d'arrêt européen, c'est la loi européenne. Donc, il faut qu'on demande l'avis de la Cour de justice européenne. Et c'est là où on en était. Et la Cour de justice européenne a donné son avis il y a deux jours, qui est assez hallucinant.
Et ouais. c'est là où c'est vraiment très très important ce qui est en train de se jouer, c'est qu'en fait ils sont en train de valider au niveau de la Cour européenne des lois qu'on peut qualifier scélérates, en tout cas toutes les lois sont scélérates, qui sont les lois mussoliniennes, parce qu'en fait sur le mandat d'arrêt, il y a un certain nombre de conditions qui fait qu'on peut considérer que c'est pas que les lois du pays où il doit être envoyé ne sont pas normales, quoi. Enfin voilà, simplifier de manière très très basique, n'importe quel juriste s'arracherait les cheveux si m'entendrait dire un truc pareil. Mais globalement ça veut dire ça veut dire qu'en fait il y a un État qui peut contester les lois d'un autre État, et là en fait la Cour de cassation, au lieu de prendre d'avoir un peu de courage, mais bon, on connaît les juges, à refuser, sous aussi la pression des différents procureurs et donc du gouvernement français, de se prononcer, et la Cour européenne de justice, quand ils prennent cette décision en disant on veut surtout pas ouvrir cette possibilité-là, c'est pour pouvoir continuer tout le temps d'appliquer ce mandat d'arrêt européen, quoi.
C'est plutôt, on ne veut pas fermer cette possibilité-là. Parce qu'en fait, dans le mandat d'arrêt européen, et personne ne le sait vraiment, et c'est là-dessus qu'on a planché pendant ces trois ans, c'est qu'en fait, il y a des exceptions. Il a été fait avec des exceptions. Pour justement, les cas comme Vincenzo, et Vincenzo, c'est un cas d'école. Lui, il est parfaitement dans les exceptions. Exception parce que il n'y a aucun délit de sang, il n'y a rien, il n'a pas donné un seul coup. En plus, il a été spectateur de débordement dans une manifestation. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Donc, c'est vraiment un cas d'école. Ils le disent clairement dans leur rendu. C'est ça qu'ils disent. Ils disent, mais si on n'interprétait pas restrictivement les cas d'exception en considérant que c'est des exceptions, à ce moment-là, ça ouvre le champ, parce qu'en fait, en Europe, c'est pas pareil suivant les États. Il y a toujours des petites différences dans les chefs d'inculpation. Et dans ce cas-là, tout le monde s'engouffrerait dedans. En gros, ils disent ça, hein. Ils disent ça, ni plus ni moins. Le mot exact, je peux pas vous le donner sous la main, mais en gros, c'est ça. Ils ont peur de l'autoroute que ça ouvrirait. Donc, plutôt que de dire, bah oui, là, ça pose un problème, eh ben, ils ferment. C'est-à-dire qu'ils disent, on va faire une jurisprudence où on dit, bah non. C'est vraiment que des cas d'exception. Et vous voyez ce cas qui est un cas emblématique, eh ben non, on va dire que non, qu'il faut le renvoyer. C'est très grave. C'est une justice. En fait, ils sont en train de faire une jurisprudence européenne qui soit valable en France et ailleurs.
Il la faisait déjà avant, enfin, parce que je veux dire, les mandats d'arrêt européens, en fait, c'est quand même un truc qui est utilisé assez régulièrement. Là, je pense que l'importante différence qui peut exister, c'est qu'il y a des rapports politiques qui sont en train de se jouer, en fait, parce que ça, c'est aussi lié. Enfin, il y a eu toute la répression aussi autour du Notav entre la France et l'Italie, et donc c'est au cœur de tout ça. Mais le mandat d'arrêt européen ici à cette antenne, on n'en parle pas énormément, mais c'est quand même vraiment un truc vraiment dégueulasse, où en fait la la police devient européenne en fait. Enfin voilà quoi. Et donc ça a des gros impacts. Et donc en fait c'est comme d'hab en fait. Quand ils écrivent les lois, ils se donnent un peu un petit principe d'humanité en disant on va foutre quelques exceptions et tout ça. Mais dans la pratique, bah voilà comme on le voit là, c'est toujours différent. Voilà. Ce qui est clair, c'est que bah voilà c'est des rapports de force et de tension, voilà, et aussi de répression au niveau européen du mouvement social, voilà, qui est en train de se développer. C'est-à-dire qu'avant il y avait une répression contre les gens qui s'extrayaient du capitalisme par des bracos ou autres. Et là c'est contre les mouvements qu'on plus de personnes qualifient de politique et tout quoi. Voilà. En tout cas, ce qui est hyper important de dire, c'est que en fait, c'est une recommandation, ce que dit la Cour de justice européenne. Voilà. Et donc, la Cour de cassation n'a pas l'obligation de la suivre. Voilà. Et donc, on n'y croit pas trop parce qu'on connaît les juges, mais voilà, mais c'est à eux de prendre leur courage à deux mains et de. Et voilà.
C'est plus que ça. Hein. Sa marge de manœuvre est très très. Il faut qu'elle s'oppose à la décision de la Cour de justice européenne. Et normalement, puisque c'est elle qui a posé les questions, elle doit respecter. Et ça, c'est dit dans le texte. La Cour de justice européenne lui dit qu'elle doit respecter son avis, enfin son avis qui est plus qu'un avis, qui dit il faut le renvoyer. Là, il ne dit pas il faudrait le renvoyer, il dit il faut le renvoyer. Donc ça veut dire s'opposer à la Cour de justice européenne.
On continuera à donner de nouvelles. Je suis vraiment désolé qu'on ait dû faire si court. Merci mille fois, plein de force à vous.
Courage, voilà.
Je suis désolé, mais en tout cas, on se tient au courant. Et si vous voulez rappeler un autre moment, quand il y aura plus le temps pour développer tout ça, on s'organise ça.
D'accord.
Ça marche. Je suis vraiment désolé. À très très vite. Merci d'avoir appelé.
À très vite. Pardon.
Vas-y.
Une bulle d'oxygène après toutes ces nouvelles douloureuses. Vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu le ciel la nuit. Pour la première fois depuis 20 ans, je ne savais pas que le ciel était bleu la nuit. Que c'est beau un ciel la nuit, sans filin ni barbelé. Un ciel bleu, coloré, de silence, un instant, vers minuit. Courage à toutes et à tous.
Aïe aïe aïe.
Merci Khaled.
Merci Khaled.
On va passer vite au coucou.
Ouais, alors moi Vas-y. Je le fais en courant, mais en fait je viens de me rappeler que j'ai une toute petite lettre à lire et c'est très très court, même si Serge, tu me regardes en mode tu m'assassines. Big up, donc c'est Youssef qui nous parle. Bonjour à toute l'équipe de l'Envolée. Merci de votre soutien et de votre détermination. Malheureusement, de là où je suis à Mozac, je capte pas votre radio. Votre émission me manque beaucoup. J'ai bien reçu le livre de Charlotte et aussi le bouquin sur la peine de mort qui n'a jamais été aboli, que j'ai trouvé poignant. La vie à Mozac, je vais pas trop me plaindre du cadre, c'est sympa à moitié, car ça reste une tôle dans son fonctionnement. J'ai du bol, j'ai un bon avocat qui me défend bien. Je vais vous écrire et tout vous détailler. Je lâche rien, je suis très déterminée et eux le savent que trop bien. Ils m'appellent l'anarchiste, lol. Je défends juste mes droits. Merci à toute l'équipe, je vous embrasse et encore merci pour votre force et votre soutien. Force et détermination.
Ouais, big up à toi.
Yes. Et moi, j'en profite pour faire un méga big up à Kémy, à Youssef, du coup, à Karim, à Gigi, à Erwan, à Nadia, à Lotfi, à Georges, à Francis et à Bilal.
Et Christophe, qui a Vandal le Vieil.
Yes.
Alors, moi, j'ai d'autres coucous. Donc, Nadia, on l'a dit. Ziad Alouine. Je vais faire un big up aussi à la pote qui est au Beaumet, au Mitard. Comme si t'as pas déjà assez d'emmerde. Dédé, je crois que c'est en ce moment à peu près que t'es censé sortir, donc j'espère que t'es bientôt dehors ou dehors. Emma, Jordana, n'hésitez pas à redonner des nouvelles. Je sais que vous avez pas bien quand vous écrivez pas trop. Là, ça fait quelques semaines, donc voilà, grosse force à vous. Big up à toutes les personnes au CRA de Marseille, notamment celles qui sont en grève de la faim au bâtiment 1C.
Et au CRA de Vincennes aussi.
Et de Vincennes aussi, ouais. Force aux deux frères Dylan et Nassim au Beaumet. Big up à Kaina, donne des nouvelles s'il te plaît. Et puis Yacine à Salon, j'espère que tu as reçu mon courrier. Dernière chose, Yann Kepa, donc plein de force pour le passage en cour d'appel le 21 juillet. Et s'il y a par hasard ces deux personnes qui nous entendent, Adeline donne des nouvelles, ça fait plusieurs mois. Et Fabrice, s'il te plaît, lâche ton code de tel si tu veux que je te rappelle.
Aïe, aïe, aïe. Sur ce, c'est l'heure ou on a des petits coucous encore?
À l'infâme quand même, les poteaux de Villepinte, Kémy, je crois qu'on n'a pas passé son blaze, mais donc plein de force parce qu'on sait qu'il n'y a pas nécessairement des super nouvelles. Raleigh, j'imagine que tu as des coucous, non? La dernière fois, tu en avais?
Ouais, Christophe qui est à Vendel-le-Vieil, il a fait le CNE et puis après le CNE, bonjour la réinsertion, il l'a envoyé à Vendel-le-Vieil. Donc ça promet. Et sinon, ouais, tous ceux qui se reconnaîtront à Réau, La Santé, Bois d'Arcy, Fleury, Ony, Villepinte. Je vous embrasse. Courage à tous. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.
Est-ce qu'il y a d'autres coucou? Force, courage et détermination. Et Raleigh, je te laisse dire le dernier mot. La dernière fois, tu avais l'air d'avoir envie de le dire.
Et surtout.
Et surtout, il n'y a pas d'arrangement.
Allez, bonne soirée. C'était l'envolée sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
106.3, pour en finir avec toutes les prisons.
En attendant que la dernière chanson se mette en route, je pense que c'est la dernière émission avant la rentrée, non?
On ne sait pas encore trop.
Ok, suspense, vendredi suspense, prochain.
Peut-être on va se motiver vendredi. Hein.
Allez, on est au
chaud. Bon, en tout cas, plein de force à tout le monde.
Courage.
C'était autre chose, y'a que du gros sécali. Je peux pas te citer autre chose que la rue, j'en suis un camé. Il ouvre trop sa bouche, sur moi je le laisse parler. Mais quand il va voir le quai, pousse dans sa harpa, je lui en calune. Calme, je suis dans deux bressons bas, il est mon séba. On sait tout ce qu'il fait, qu'on fait, juste genre on sait pas. N'en sépare pas quand en promenade, poteau spectacle. Coup de céramique ou coup de spade. Pour la mif, je connais pas ce bar. C'est par où, je m'arrête pas tant que j'ai le par où. Promenade, ça bosse les pas où. Mais dehors, par le temps de mettre KO. Combien bouillonne en grotte avec la soif d'un poupa car chez KO. A chaque jour, suffit sa peine ici. Chaque jour, ton paron. Baron, tout le monde veut l'être, mais combien donneront pour éviter les barreaux. Et les plus rancuniers pour t'arroser, ils mettront tarot. Dehors, c'est tendu, ça s'entretue. Chacun son tour, les temps sont tendus. Que la pénurie a fait naître des rocs en cours. La banlieue va nous être, pur produit de la banlieue ouest. Bon vieux, je suis trappé dans bloqué. Faut pas qu'un million d'égo. Ils font les dingues, pourtant ils ont peur du heps. Nous les dés sont commis sur rogatoire, même en mandat dépôt. Tête mes cradjas condamnés, mais je les repos. J'suis dans le bendo, j'fais les compter, on est bon. Ils font les dingues, pourtant ils ont peur du heps. Nous les dés sont commis sur rogatoire, même en mandat dépôt. J'suis dans les gros sous, pourtant j'ai pas percé. Pas pressé parce que dans le coin sombre, j'rends plus ton rappeur rincé. Comprends que j'suis coincé, j'suis trempé dedans. C'est embêtant, mais le bendo me rapporte chaque jour des sommes conséquentes. Fermez les portes, j'pose les pains de ces quatre kamikas. On met sicario, on se mélange pas, c'est la Corsica. Corsés sont les joints pour canaliser ce train de vie. On vise des sommes très élevées, donc on poursuit la crave. Bi, j'ai grave le mort dans le fond. Bon vieux, jeunesse passée au hep. Parce qu'on est du genre à risquer les assiettes pour pas finir en hess. On veut plus voir les SS. S'il faut réti, on réti. À découvert de SNL, donc chaque jour faut se repentir. Bon vêtu, la tétine. À mes semblables, j'dédie. Et c'est jamais devant toi qu'une grosse salope confirmera ses dires. Moi, j'étais pas dans le city, j'étais juste devant un pire à la frappe. J'suis mauvais à qui la frappe.